Émission 6, c'est parti.
Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous sommes le jeudi 4 mai, je suis Suzanne, votre animatrice, et à mes côtés ce soir, nous avons Valentin. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Tu vas nous parler des ados?
Oui, de la fin du lycée en général.
Nous avons aussi Alice. Bonsoir Alice.
Salut.
Tu vas nous parler de ce qui arrive aux adolescents.
Aux jeunes filles.
Aux jeunes filles. Et enfin Emma.
Je vais vous parler de plantes connectées à l'intelligence artificielle.
Ok. Très bien, un beau programme pour ce soir. Pour débuter cette émission, je voudrais savoir comment vous allez autour de la table. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? On va commencer. Alice
Moi, j'étais à Bergen pendant 2 jours. J'ai eu le malheur de faire une micro-rando et maintenant, je ne peux plus marcher.
Oh non.
Voilà. Mais sinon, c'est très joli, je recommande.
Il a fait beau?
Il a fait beau. Il a dû pleuvoir 2 minutes chaque jour, mais ça se déplace très vite, les nuages. Donc, il faisait beau, ouais.
Ouais, très bien. Emma?
Moi, je suis allée à Kistefos Museum.
Ça, c'est à Hønefoss.
À 1 heure d'Oslo. Et c'était super. Je recommande vraiment une petite excursion dominicale. J'ai un problème de micro, on dirait aussi. Hein. Donc, oui, pour une excursion dominicale, c'est absolument parfait, le Kistefos.
Ouais.
Magnifique parc à sculpture. Bâtiment de dingue.
Après très moderne.
Le twist. Ouais. Vraiment un chef-d'œuvre d'architecture, des sculptures de folie. Bref, une bonne excursion.
Génial. Et toi, Valentin, quoi de beau?
Moi, j'ai pu aller aussi à Bergen. Alors, c'était pas en même temps que Calice. Mais non, effectivement, il a fait beau aussi. Puis il y avait des beaux points de vue à avoir aussi. Mais pour ça, ça se mérite. Donc, du coup, il faut grimper. Et bon, soit du coup on peut prendre on peut marcher un peu et arriver sur ces points de vue là, ou alors après bon c'est un peu plus coûteux, mais il y a le funiculaire et ouais c'est grave cher, mais bon voilà, si vraiment on a peur d'avoir mal aux jambes.
Et ben moi je suis aussi allée à Bergen, mais 2 fois même. 2 week-ends à Bergen, mais c'était pour des tournois de basket, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire du shopping ou voir les voir la colline de Bergen.
Il n'y a que moi qui ne suis pas allée à Bergen, là quoi.
Ben ouais.
En gros.
Ben ouais, on s'était dit qu'on allait.
Je peux encore faire partie du groupe ou.
Mais oui,
ou
mais,
m'exclut.
Mais oui. Mais pour une petite transition, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, je voulais partager 5 actualités que peut-être vous avez manquées en ce début du mois de mai. Alors, la première actu, c'est que Louise Bourgeois débarque à Oslo. Sa grande sculpture qui s'appelle Maman a débarqué sur cette grande araignée de 10 mètres, et maintenant à Slottsparken. Cette sculpture a été créée en 1999, elle a fait le tour du monde. Ça coïncide avec une expo rétrospective qui a ouvert le 24 avril à Nationalmuseum, autour du travail de Louise Bourgeois. Donc 200 couronnes d'entrée, et l'expo elle est ouverte jusqu'au 6 août. Voilà. La deuxième actu, je ne sais pas si vous vous rappelez si c'était là Valentin ou Alice. L'année dernière, il y avait une morse Freya qui a défrayé la chronique. Ça ne te parle pas, Emma?
Ah, mais si, justement, j'avais une sculpture.
Ils ont inauguré la statue de Freya, donc la morse de 600 kilos qui a fait un petit peu sa vedette l'été dernier. Qui s'est installée sur les bateaux, qui bronzait, voilà. Mais bon, le problème, c'est qu'elle s'est rapprochée trop des humains et ils ont un peu eu peur pour sa santé. Et donc, elle a fini, malheureusement, euthanasiée.
Ah, l'horreur.
En août 2022. Voilà, donc il y a eu une campagne de crowdfunding qui s'est engagée. Ils ont récolté 270 000 couronnes et donc, du coup, ils ont pu faire une sculpture. Donc, c'est Astrid Tonoya qui s'en est chargée, qui donnera donc la vie éternelle à Freya, Kongens
Marena.
Marena. Voilà. La troisième info, je ne sais pas si vous avez suivi, pendant, c'est à la fin du mois d'avril, une roquette de recherche suédoise s'est écrasée sur le sol norvégien. Ils se sont plantés, bon, et heureusement ça n'a pas fait de victimes, puisque le tir avait été effectué assez loin de toute habitation. Mais bon, ça aurait pu être un petit incident diplomatique entre la Suède et la Norvège, bah, surtout parce que les autorités norvégiennes ont seulement appris la nouvelle par le communiqué de presse de la Swedish Space Corporation. Ils auraient quand même pu avoir un petit mot glissé avant que ça soit rendu public au final. Mais bon.
Mais s'en est-il rendu compte ?
Et non ?
Ah bah voilà.
Donc c'est pour dire que c'était pas
blesse, en fait. Ils sont pas assez bien préparés. Du coup.
C'était pas trop trop grave. Voilà, quatrième actu, c'est ben une arnaque qui commence à faire des vagues en Norvège. Donc c'est ça part d'un jeu en ligne, donc sur une page internet, qui va vous envoyer un SMS pour confirmer que vous voulez jouer à ce jeu en ligne avec un lien. Et alors là, si vous cliquez sur ce lien, ben, concrètement, ils vont utiliser votre numéro de téléphone et envoyer des SMS et MMS à l'international, ben, à votre propre proche, quoi. Donc il y a quand même des gens qui se sont retrouvés avec des notes de 70 000 couronnes. Voilà, donc paye ton hors forfait. Faites attention.
On a le nom, au moins qu'on puisse faire de la vraie prévention, quoi.
Non, j'ai pas le nom du jeu, mais bon, faites très attention. S'il y a des liens, des choses que vous connaissez pas, voilà, ne cliquez pas. Voilà. Dernière info, c'est une sortie ciné. Peut-être que vous avez entendu parler du film qui s'appelle Den Siste Våren, le dernier. Printemps,
ouais.
De Franziska Eliasson. Donc, c'est un film d'étudiant, au final, qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, l'histoire, c'est une quête... Enfin, c'est une histoire familiale qui se passe dans les Lofoten. Et en fait, donc, c'est une fratrie, une jeune femme qui est un peu... qui essaie de comprendre le parcours de sa grande sœur qui a complètement déconnecté de la vie, qui est très en colère à propos de l'injustice du monde, etc., le désastre climatique. Donc c'est quand même, c'est très porté sur ça. Voilà, puis il a été acclamé pour pas mal de concours. Donc voilà, c'est une expérience, un film qui a été inspiré par, bah, parce que la réalisatrice a construit elle-même une maison en terre. Elle y a vécu pendant un an, au Lofoten, toute seule, j'imagine. Donc elle en a fait après ce film... qui a l'air très, très poétique et très coloré. Peut-être un petit peu triste.
Déprimant,
c'est le mot que je cherchais. Mais une belle, peut-être une belle découverte.
Et c'est la saison du pollen aussi qui arrive, hein, Emma.
Et sans transition, on va passer à notre débat du jour. Est-ce que vous savez à quel âge on peut commencer à travailler en Norvège ?
Moi, je ne sais pas.
Tu ne sais pas ?
16 ans.
Si, bon, toi, t'as regardé.
Il a commencé à 16 ans. 16 ans.
Moi, 16 ans, ça ne me choquerait pas non plus.
Eh bien, c'est 13 ans. En Norvège, on peut commencer à travailler à partir de 13 ans. Alors, sous condition que l'enfant ne gagne pas plus de 10 000 couronnes par an. Donc, ça ne va pas forcément aller très, très loin en termes de temps de travail. Mais quand même... Voilà, donc il précise sur Skatt et Tatten qu'entre 13 et 15 ans, c'est autorisé de faire du travail léger. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ils sont partout, les ados. Ils sont dans les stations essence, ils sont dans les supermarchés. Et c'était pareil au Danemark. Au Danemark, il y a plus de un tiers des ados entre 13 et 17 ans qui bossent dans les supermarchés. Enfin voilà, est-ce que vous pensez que en tant que Français, est-ce que ça vous choque qu'on commence à faire bosser les jeunes si tôt ? Est-ce que c'est un choc culturel ? On se retrouve en tant que Français face à un caissier qui a 15 ans et qui peut-être pas en mesure de répondre à nos soucis ?
J'ai pas l'impression qu'on en voit beaucoup, mais peut-être j'ai perdu toute notion d'âge, je sais pas. Mais non. Ça me choque, oui, bien sûr, ça me choque. Je pense à tous ces étés...
Alors, ils ont droit de bosser 7 heures les week-ends. Alors, je ne sais pas si c'est en tout, j'espère que c'est en tout. Et 2 jours par semaine maximum.
Ok, bon, c'est quand même encadré.
Donc, il y a des règles.
Après, du coup, j'avais un peu regardé. Et, en Islande, c'est 14 ans. Entre 13 et 14 ans. Et c'est seulement pour du boulot léger. Et après, en France, mine de rien, du coup, nous, ça peut commencer à 14 ans, parfois, avec condition que ça soit pendant les vacances scolaires. Et avec une. Que ce soit en travail, un espèce de travail léger. Et après, en Suède, il y avait aussi 15 ans. Non, ça peut être aussi 13 ans parfois. Aussi avec travail léger. Mais mais c'est vrai que les caissiers ou les personnes qui travaillent dans le supermarché dans lequel je peux aller, effectivement, ils me paraissent assez jeunes à chaque fois. Mais après, est-ce que ça me dérange? Ça dépend si c'est, est-ce que c'est un travail nécessaire? Enfin, quel est l'objectif derrière, en fait?
Bah, c'est ça. Parce que moi, je revenais de Bergen ce dimanche en bus. Et on s'est arrêté donc un dimanche soir, très tard. On s'arrête dans cette station-service et on voit les deux, des ados, quoi. Donc peut-être qu'il y en a un qui avait 18 ans, peut-être. Mais je me suis dit, oh là là, mais t'imagines, 15 et 18, là, et on a débarqué avec 50 personnes, des gamins qui avaient faim, qui voulaient ci, qui voulaient ça. Enfin, c'est dur, quoi, ouais, à gérer.
Ouais, surtout la nuit, là, tu... Ouais, mais j'imagine... Putain, mais j'ai vraiment... Désolée pour le problème de micro. Et pour le juron qui est parti un peu vite. Petit juron parti trop vite. Ouais, mais alors là, on est sur un travail de nuit, sur des enfants, ça me semble quand même...
Enfin, pas de nuit, mais dans soirée, quoi.
Ouais, bah, faut se demander si c'est des boulots alimentaires ou pas. Et si c'est des boulots alimentaires... Qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'État pour qu'ils aient pas à le faire? Parce que à la fac, il y en a pas mal qui ont des boulots étudiants... Enfin, moi, j'ai toujours un peu du mal à situer leur âge. Aux Norvégiens, du coup, ils sont jeunes, mais je ne sais pas s'ils ont en dessous de 18 ans ou pas. Après, du travail étudiant, ça, il y en a beaucoup. Puis apparemment, en Norvège, ils sont assez indépendants de leurs parents pendant leurs études pour subvenir à leurs besoins. Je sais que moi, après 18 ans, ça ne me choque pas parce qu'en France, il y a énormément d'étudiants qui ont un job étudiant. Mais en dessous, je sais qu'en France, je n'ai jamais rencontré... d'enfants qui bossaient en dessous de 18 ans, j'en ai jamais rencontré, non.
Parce que là, donc j'ai fait aussi un petit tour en Suède lundi et je me suis arrêtée dans un fast-food. Et dans le fast-food, il y avait carrément l'affiche « Vous êtes au lycée, vous avez envie de travailler, envoyez votre CV, patin couffin, quoi. » Donc c'était vraiment ciblé. C'était pas « On ouvre un taf qui est ouvert à tout le monde et le meilleur candidat, candidate aura le job, quoi. » Là, c'était vraiment centré « On recherche ».
Des lycéens.
Après, faut se demander aussi, on a toujours cette image en Occident que les États-Unis, ça peut être un modèle sur plein de choses. On voit la catastrophe que c'est aujourd'hui au niveau du social et de tout un tas de choses. Faut se demander, c'est le travail des lycéens aux États-Unis, c'est hyper courant. Ils ont leur voiture, ils vont travailler après les cours, ils travaillent le week-end. Faut se demander aussi si c'est quelque chose qu'on veut importer en France et qui est nécessaire et qui est bon.
Quelle est la raison, en fait, pourquoi on les fait bosser? C'est parce qu'on se dit ils sont mieux à bosser à Réma à 1000 que à être
agourés dans les rues.
Dans les rues, ça leur apprend à
la responsabilité, à être indépendant, plein de choses. Ouais. Après, moi, de mon expérience personnelle, j'ai vu aussi dans des festivals de musique. Il y a des milliers de gens genre à Oya, où les gens viennent en famille. Vous savez, tous les verres sont consignés, tout est recyclé, etc. Donc là, on voit des enfants préposés au ramassage de verres et qui passent leur journée à collecter des verres. Ça les occupe, j'ai l'impression, en fait.
Ouais. Faut voir est-ce qu'il y a un côté pédagogique derrière ou si c'est simplement.
En tout cas, ça apprend que quand tu ramasses tes déchets, tu récupères des sous. Ouais. Ça, papa peut boire une bière. Donc oui, ça sert à quelque chose, j'imagine.
Ouais. Valentin?
Non, puis je disais la boucle est bouclée, quoi. Une fois que papa peut boire la bière. Mais non.
En tout cas, chers auditeurs, si vous avez des expériences, si votre ado est déjà en train de travailler, si vous avez un retour par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram. Ça nous fera grandement plaisir. On va faire une petite pause pour introduire notre nouveau sujet. On va justement écouter
On va écouter rien de mieux que Marcus et Martinus, donc exemple d'ado qui travaille. Ils avaient 15 ans quand ils ont commencé, voire peu. Non, ils avaient été plus jeunes, 12 ans même, je crois. Donc voilà, nanana, Marcus et Martinus.
Oui, c'était Marcus et Martinus, nanana.
Ça aurait pu être confondu avec Calvin et Chipmunks, mais.
Alors Valentin, tu vas nous parler de ce qui se passe en ce moment avec les ados.
Oui, et puis ça permettra peut-être d'éclairer pourquoi les ados travaillent aussi.
Oui.
Alors au début, ce que je voulais, c'était commencer à faire une chronique du coup sur le 17 mai, la fête nationale, mais du coup c'est encore assez loin, c'est dans 12 jours. Et puis en plus, surtout, du coup, faut rendre un peu compte de l'agitation qui a lieu à mesure que la neige fond ici. On a tout le monde qui commence à construire ses plans pour le 17 mai, ou alors qui a déjà ses plans. Tout le monde a son bouna aussi. Le 17 mai, eh bien, ça marque aussi la fin d'une période assez fatigante pour les nouveaux étudiants. J'ai nommé le russe. Parce que du coup, comme chaque année, et en général depuis à partir de la fin du mois d'avril, ou une semaine avant la fin du mois d'avril, on va avoir à peu près 40 000 Norvégiens qui sont en train de sortir du lycée et de faire le russe. Donc c'est un peu l'équivalent en France de ce qu'on pourrait appeler une cérémonie de désintégration, pour ceux qui l'ont fait après la fin de l'université. Alors d'abord, comment repérer un étudiant en plein russe? Alors en général, on les repère avec leurs pantalons rouges, et parfois un sweat à capuche aussi. Et on peut avoir leur nom, leur surnom qui sont écrits sur l'un des deux vêtements. Et puis après, on peut avoir également une casquette qui est ajoutée à l'équipement. Mais ça, je pourrais en parler juste après. Bon, en tout cas, historiquement, la couleur du russe, des étudiants en plein russe sont du coup le rouge. Et on peut avoir aussi d'autres couleurs qui peuvent apparaître. On a notamment le bleu qui est celui du coup qui a été introduit par l'université d'économie d'Oslo. Et on peut avoir également le noir qui va indiquer qu'on a les étudiants du coup sont, enfin les lycéens sortent. Ça indiquera qu'on a des lycéens qui sortent de bac professionnel. On peut aussi avoir du vert, ça indique du coup que l'étudiant rentre en études supérieures du coup d'agriculture. Oui, du coup le rouge et le bleu, ça indique qu'il passe en études supérieures, donc en économie pour le bleu et en rouge pour un peu tout. Et du coup on a aussi des pantalons blancs qui peuvent indiquer du coup une carrière universitaire dans la médecine ou alors dans le sport.
Ah ouais.
Et également, ça peut indiquer que ça peut être aussi la couleur des étudiants chrétiens qui parfois choisissent de fêter ça entre eux pour parfois se mettre un peu à part de l'énorme pression que peut représenter le russe, parce que oui, le russe c'est une pression pour un étudiant parce que du coup on touche là un moment un peu charnière de la vie des jeunes en Norvège, quasiment tout le temps passe par tout le monde passe par là à différentes échelles mais de différentes manières, mais tout le monde y passe. On a aussi les parents qui sont forcément passés, ça existe depuis 1905. Et bon, du coup, enfin, quand on se balade dans les rues, nous en ce moment, on est en train d'en voir de plus en plus. Mais aussi, on en parle également dans la première saison de la série Scam, je crois, si vous avez pu regarder, qui parle du coup de cette préparation de la cérémonie. Alors, autre aussi chose pour repérer un étudiant en plein russe. On peut avoir parfois des Russbussen qui arrivent dans les rues et qui s'arrêtent. Et là, on a des étudiants qui en sortent pour faire une pause vomito-technique. Et alors, du coup, le Russbussen, c'est un gros sujet. Alors, les étudiants qui sortent de lycée peuvent choisir de se préparer à un bus, d'acquérir un bus, de le rénover, de mettre des sonos qui en font trembler les parois à l'intérieur, souvent du très bon matériel. Ils ont besoin aussi du coup pendant le russe, donc ils vont utiliser ce bus-là. Ils vont du coup louer un chauffeur parce que tout le monde boit. Hein. Faut bien s'en douter, on est en Norvège quand même. Les chiffres à ce moment-là peuvent donner le vertige. Alors à votre avis, combien un étudiant peut verser pour contribuer du coup à l'équipement de son bus de russe
par étudiant.
Par étudiant.
On doit être sur des chiffres faramineux parce que ça ne touche que des gamins de classe sociale. Bien privilégié, je sais pas, 100 000 euros, 20 000 euros.
Ouais, 100 000 couronnes, je veux dire.
Ouais, du coup, on est à peu près aux alentours de 10 000 euros. Donc, alors, soit c'est financé, en partie, par papa-maman. Parce que oui, du coup, ça s'adresse à le bus,
Qui bosse.
Qui bosse. Aikinor. Et on peut avoir également des petits, enfin les étudiants du coup qui font des petits jobs pour contribuer et préparer ça. Et on peut aussi avoir des sponsors parfois qui viennent sponsoriser le bus. Alors je sais pas à quel point c'est fréquent, mais en tout cas ça existe, des sponsors. Alors du coup tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un bus. On peut aussi avoir des étudiants qui vont choisir la voie intermédiaire, donc c'est plutôt le van, les vans rouges Chevrolet qu'on peut voir débouler parfois. Et puis après, on va voir des gens qui font ça tout simplement en voiture, en prenant la voiture, en louant la voiture des parents. Alors, autre élément aussi qui permet de repérer un étudiant en plein russe, c'est le Russknöter, qui sont des gages. Et du coup qui peuvent être un peu de tout genre. Bon là je prends le plus drôle pour commencer. Et bon, il y a le traditionnel au rond-point, si vous claquez la pancarte, si vous klaxonnez, on boit. Après on a aussi mettre un panneau à vendre sur une voiture de police. Planter sa tente de jardin dans le jardin d'un prof et y passer la nuit. Marcher sur les mains et les genoux toute la journée au lycée, parce que oui, les cours continuent, hein, parce qu'un examen arrive après le russe.
Ouais, marcher sur les genoux, c'est pas un gage, c'est une véritable punition.
Oui, pourquoi? Oui, effectivement.
Sachant que c'est volontaire. Hein.
Oui, parce qu'après, derrière, du coup, on va avoir, derrière le russe Knutter, on va avoir un item ou, je sais pas, un insigne qui va pouvoir être positionné sur la casquette. C'est un peu l'équivalent des calots, du coup, en France, ou je sais pas, des faluches.
Le bizutage.
Ouais, alors après, en France, nous, le bizutage, du coup, c'est pratiqué par les plus anciens sur les plus jeunes. Là, on a que des gens qui sortent d'études. Donc, on va pouvoir comparer.
Ils s'auto-bizutent, quoi.
Ils s'auto-bizutent, en quelque sorte, ouais. Mais ils se foutent une grosse pression, quand même. Et du coup, on peut aussi les voir au moment des Russes trèfles, qui sont des festivals ou des rassemblements ont lieu. Donc, on va avoir des dizaines, centaines de bus qui arrivent avec les vannes pour participer au festival, donc du coup qui se traduit en grosse beuverie. On va avoir deux grands festivals qu'on appelle aussi Landstreff, donc un qui se tient à proximité de Stavanger et un autre qui se tient à proximité d'Oslo au lac Truvan.
Ouais.
Et on va aussi voir passer du coup les fameuses Russkortes, donc les cartes rouges, une sorte de carte de visite d'étudiants sur lesquelles du coup on a la photo de l'étudiant avec les coordonnées. Parfois on a une blague ou alors une description de l'étudiant en fait par un de ses camarades, pas forcément valorisante forcément. Et souvent du coup échangé entre les étudiants. On a même aussi les enfants qui vont voir en fait collectionner ces cartes là. Alors après, j'ai essayé de chercher un peu les autres choses qui pouvaient se passer pendant le russe. Alors on a aussi un spectacle du coup de fin d'année qui a lieu souvent au lycée, où en général les gens qui passent sur scène sont bourrés devant une audience qui est aussi bourrée. Y a toujours un peu un challenge entre la nouvelle génération, l'ancienne génération pour faire mieux que la précédente forcément.
Ouais, et aussi ils ont chacun leur hymne.
Oui, et un hymne qui peut être propre au lycée, je crois.
Ouais, à la classe ou au crew, quoi, en gros.
Au bus.
Au bus.
Ouais.
Alors, du coup, forcément, on parle un peu de dérive aussi, parce que du coup, on parle de Norvégiens, plus d'alcool, plus jeunes.
Ça peut aller vite.
Donc, du coup, gare au tournant. Alors, au-delà des accidents de la route qu'on peut voir passer parfois, on voit aussi passer. La consommation d'alcool est fortement encouragée. J'ai parlé des gages sympas, mais après, on a des gages beaucoup tournés autour de l'alcool. Donc, boire 20 canettes de bière en une journée, boire une bouteille de vin en 20 minutes. Ou après, on va aussi avoir d'autres gages tournés vers le sexe, du coup, enfin, coucher avec 10 personnes ou coucher avec quelqu'un du bureau. Après, il y a un espèce d'encadrement des gages qui peut apparaître. Donc, on va avoir des espèces de listes de gages qui vont être publiées sur Internet et qui vont permettre un peu d'encadrer les dérives. Et avec, du coup, à chaque gage, on a un item ou un insigne qui peut être mis sur la casquette. Après on a une petite régulation de l'État qui peut aussi être mise en place. Donc on a des normes de sécurité qui ont été plus contraignantes ont été mises en place dans les années 80, 90. Et aussi des tentatives d'avancer la date des examens. Alors avant, les examens avaient lieu avant le russe. Maintenant ça a lieu après le russe. Donc c'était placé en espérant que les étudiants soient un peu plus raisonnables. Ça marche pas forcément.
Ah bon?
Donc, on peut avoir des jeunes qui partent totalement en vrille et du coup que se ramassent à leur examen. Donc après, je parlais aussi, oui, voilà, on a beaucoup de du coup d'hypersexualisation derrière, et on va aussi avoir beaucoup de drogues qui circulent, donc avec sur les festivals, avec forcément des personnes qui sont droguées et parfois font forcément violer à leur enfant, violer. Alors après, du coup, on parlait du prix du bus, donc qui était à peu près à 100 000 couronnes par personne. Donc forcément, il n'y a pas tout le monde qui peut payer cette contribution-là, et du coup, on peut avoir un phénomène d'exclusion sociale qui se met en place avec du coup les gens cool et riches d'un côté qui voyagent en bus, et puis les gens un peu exclus qui ont leur moyen de transport.
En même temps, c'est le même principe que les rallyes en France, non?
Ouais.
Finalement.
J'ai jamais fait de rallye, mais ouais, après, c'est le rallye en France, est-ce que, enfin, pour moi, ça se limite à une...
Toujours, moi, j'ai été étonnée d'apprendre que ça existait toujours, je pensais que c'était révolu.
Ouais, mais ça s'adresse à une, genre à l'aristocratie.
Ah bah oui, ça s'adresse à un groupe de petits millionnaires.
Mais c'est, après, autant le rallye, c'est plutôt pour la, enfin, il y a plutôt une ambition, enfin, c'est les parents qui introduisent assez tôt les enfants dedans avec un objectif de reproduction sociale.
Ouais, entre autres. Complètement.
Et alors que là, du coup, pour le coup, je pense que les parents, bon, ils contribuent un peu à ce qui reste dans le bus, mais c'est
ouais, mais la reproduction sociale. Avec tes potes super riches, c'est possible.
Ouais, ouais. Mais oui, il y a une notion de ségrégation sociale derrière, hein, c'est sûr. Et après, on peut aussi avoir, là, j'ai parlé de couleurs, donc on a les pantalons noirs qui sont plutôt orientés formation professionnelle. Et parfois, on peut avoir un système de, enfin, pour les rouges qui ont les pantalons rouges qui ont du mal à traîner avec les gens en pantalons noirs, du coup, parce que bon, la voie scolaire est pas forcément la plus valorisée. Alors après, on peut avoir aussi des parades qui sont, enfin des parades, des phénomènes, ouais, de contournement qui sont mis en place. Alors pour les bus, on peut avoir des bus qui s'adressent à tout le monde. On peut aussi être parrainé pour entrer dans le bus. On peut aussi avoir des systèmes de location de places ou d'achat de places dans le bus pour faire un voyage ou pour se rendre à un festival avec le bus. Et on va aussi avoir, j'avais quelque chose. Oui, après on va avoir des gages qui vont se vouloir un peu plus éthiques. On peut avoir par exemple donner quelque chose à des sans-abri ou faire des contributions sympas. Mais bon, c'est vrai que c'est pas ce qui prédomine non plus sur le russe. Et alors du coup, on a parlé de l'hymne de chaque personne et enfin de chaque crew, et on a un chanteur qui est spécialisé dans la conception de ces chants-là, qui s'appelle Tix, qui est suédois, je crois, et qui a fait
Norvégien. Tix, hein.
D'accord, pardon. Ouais.
Qui est une superstar, Tix.
Qui est une
superstar boétique.
Et du coup, qui va concevoir les hymnes des crews.
Donc son dernier morceau en date, qui est sans doute le nouvel hymne russe, Studio 23.
Eh bien, de retour dans Brisons la glace, on a écouté Tix, on a parlé des Russes. Est-ce que autour de la table, ça vous a fait un choc d'apprendre la culture du russe en Norvège?
Ah oui, moi la première fois, voir tous ces pantalons rouges et tout, j'étais très intriguée. Jusqu'à ma première carte, et encore aujourd'hui, ça m'intrigue. Je vois pas trop l'intérêt de collectionner ces cartes. Mais bon, j'imagine que c'est comme n'importe quelle collection, quoi.
Et par rapport au phénomène lui-même, le fait que les ados aient comme ça, c'est carrément...
Moi, je trouve ça cool, mais après, il y a toujours ce truc, il faut faire partie du groupe, gna gna gna.
Moi,
je sais pas si j'aurais kiffé, en fait.
Je trouve ça un peu. Déjà, j'ai un peu du mal à concevoir que. Enfin, normalement, sortie de lycée, c'est 18 ans. Avec toutes les restrictions d'âge en Norvège par rapport à l'alcool, c'est assez étonnant. Et. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, étant dans le milieu universitaire, que ça se passe dès la sortie du lycée. Quand on voit déjà ce qui se passe à la fac. Quand c'est un peu plus réglementé, toutes les dérives qu'il y a. En France, c'est de plus en plus réglementé quand même. C'est de plus en plus strict sur les bizutages. Dans l'école où je suis, on n'est pas obligé d'aller au bizutage. C'est pas forcé. Après, je sais qu'en Belgique, ils ont aussi une grosse tradition comme ça de quand on rentre à la fac, on peut faire des soirées un peu spéciales et ça permet de rentrer dans un cercle à l'université. Et en fait, en plus d'accéder à des soirées spéciales, donc il faut faire tout un bizutage, je crois, pour y accéder. Mais une fois qu'on y accède, on a accès à des cours en plus, on a accès aux annales des partiels, on a accès à du soutien. Et du coup, c'est des cercles qui sont assez fermés. Il faut passer par un bizutage pour y entrer. Mais du coup, il y a tout un aspect d'entraide universitaire derrière qui vient avec. Et du coup, ils ont des petites casquettes ou des petits chapeaux. Je sais qu'aux arts et métiers aussi, il y a un bizutage en France assez important. Okay. Du coup, à un moment de l'année, je crois qu'ils doivent se raser la tête et ils se baladent avec leur grande veste d'arts et métiers avec plein de tags dessus. Là, pareil, ça forme des communautés très fortes. Puis les arts et métiers, c'est pas non plus une école où on rentre facilement. Mais je crois pas que ça existe en France en sortie de lycée, tout ça.
Et là, ce qui m'a choqué, c'est de savoir que c'était pré-examen. Donc ça veut dire parce qu'encore que ce serait bon, on a fait nos examens, on a eu nos examens, on va l'année prochaine, on sera étudiant ici et là, on fait la fête pendant 30 jours, j'en sais rien. Là, ça aurait plus fait de sens.
Bah, historiquement, les examens étaient avant en fait le russe. C'est juste, enfin, le gouvernement, les autorités qui se sont dit bon bah on va calmer un peu l'affaire, on va foutre les examens après le russe. Et là, ils vont se calmer d'eux-mêmes. Sauf que c'est pas du tout ça ce qui s'est passé.
Bah non, parce que t'imagines, là, toi, entrer dans ton bac alors que t'as fait 30 jours de beuverie, là. Déjà qu'il y en a qui galèrent à réviser, etc. Là, il n'y a aucun moyen qu'ils révisent, quoi, pendant ces
premiers... Non, en même temps, l'année du bac, j'étais au lycée Ampère à Lyon et je faisais partie du bureau des élèves, là. Et on avait organisé un... Juste avant le bac, hein, peut-être trois semaines avant, on avait organisé un voyage dans un festival en Hollande, où on avait eu le bus et tout, le tout sponsorisé par le lycée.
Ah, mais ça a duré combien de temps ?
Eh ben, on était partis un peu moins de 48 heures, quand on avait dormi dans le bus, on avait été, vit une journée de festival avec Björk, avec plein de trucs incroyables. Wow.
Mais après 48 heures.
Mais après, je suis pas sûre que le lycée l'ait refait. Hein. C'était comme la fête qu'il y avait eu en seconde, où finalement il y avait eu bien trop d'élèves bourrés. Ils avaient pas refait après. Alors peut-être j'étais une génération labo. On essaye les fêtes dans les lycées, puis en fait.
Non, mais à la fois 48 heures, ça se comprend. Mais là, c'est quand même de. Tu disais mi-avril jusqu'au 17 mai, quoi.
Ouais, c'est en général, ça commence une semaine avant la fin du mois d'avril ou 10 jours. Ouais, et puis après, ça se termine le 17 mai avec eux défiler devant leur roi, s'il vous plaît d'ailleurs. Mais après, il y a quand même des cours qui ont toujours lieu. Du coup, et les élèves ne peuvent pas se permettre d'être absents au-delà d'une certaine limite. Donc, du coup, ils vont en cours. Et après, quand ils font leurs excursions en bus, quand j'ai pu parler avec des potes norvégiens, c'était surtout le week-end en fait que ça se faisait. Et après, y en a qui peuvent jouer les prolongations et faire un peu plus la semaine, quoi.
Ouais.
Mais après, par rapport au parallèle avec la France, c'est que la France, enfin, autant j'ai l'impression. Il y a pas autant de complicité en fait au niveau des autorités. Bon, moi mon collègue du coup qui a fait son russe au Lofoten, et ben en fait il s'amusait à faire un espèce d'opération escargot à 15 véhicules, enfin 15 vannes du coup sur une route, et il prévenait la police, quoi, avant. Et du coup la police escortait l'opération escargot.
C'est bien
les Norvégiens,
ça.
Ouais,
on va mettre le bordel, mais on va vous le dire avant.
Ouais, du coup, les autorités sont souvent prévenues en fait en amont des événements, et il y a pour les bus qui sont souvent en mauvais état, il y a des contrôles de sécurité qui sont limite offerts par les autorités locales aussi pour s'assurer que le bus est en bon état. Et après, il y a beaucoup, la Croix-Rouge qui est très présente. Après, ça parfois facilement vrille. Du coup, récemment, le fait divers qui a apparu, c'est qu'on a des étudiants, je crois, une dizaine, qui ont pris je sais plus quelle drogue et qui se sont retrouvés limite en overdose parce que c'est parti en surconsommation, quoi.
Ah oui, évidemment, les Russes, la période des Russes, c'est toujours un lot d'accidents et bêtes et évitables qui parfois.
Forcément.
Se termine mal.
Oui, mais ça, c'est l'école de la vie.
L'école de la vie, oui. Bien, on va. Merci beaucoup, en tout cas, pour nous avoir un peu expliqué les phénomènes du russe, ou des russes. Et on va passer à un tout autre sujet avec toi, Alice. Eh bien, une petite parenthèse musicale pour faire une transition entre le sujet des Russes et ton nouveau sujet biologie, on va l'appeler comme ça.
Je vais parler de santé mentale et de contraception. Bon, du coup, on va commencer par. on va commencer par une petite définition, du coup, rapidement. Du coup, la dépression, c'est un trouble mental qui se caractérise par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour des activités qui auparavant nous procuraient du plaisir et qu'on n'avait pas de mal à faire, mais aussi un manque d'appétit, un dérèglement du sommeil. Et du coup, il y a plusieurs éléments qui peuvent déclencher une dépression et statistiquement, les femmes sont plus touchées par cette maladie. Du coup, aujourd'hui, on va discuter d'un des facteurs qui pourrait déclencher la dépression. Du coup, c'est la contraception et notamment la contraception hormonale. Du coup, vous avez peut-être entendu dire dans votre entourage qu'il y avait des contraceptifs hormonaux qui ont eu un impact négatif sur l'humeur des personnes que vous fréquentez ou sur vous, ou qui peuvent provoquer un sentiment de dépression, d'anxiété ou d'irritabilité.
N'importe quelle femme ne lève pas la main.
voilà, et du coup, les contraceptifs hormonaux, ils peuvent prendre différentes formes. On a l'implant, souvent dans le bras, le stérilet hormonal, du coup le DIUID en anglais, ouais. L'injection contraceptive, je ne connaissais pas, la pilule, du coup la classique, le patch ou encore l'anneau contraceptif. Et du coup, il y a des contraceptifs hormonaux qui sont progestatifs, et qui ne contiennent que des progestatifs, donc c'est-à-dire la forme synthétique de la progestérone, du coup c'est une hormone qui est naturellement sécrétée par l'organisme, et il y a les contraceptifs hormonaux combinés qui contiennent de la progestérone et aussi des formes d'œstrogènes. Du coup, il y a plusieurs études qui ont été menées à grandes échelles et qui ont étudié le lien entre les différents types et formulations des contraceptifs hormonaux et du coup les fluctuations de l'humeur de la santé mentale. Notamment une étude en 2016 au Danemark sur 1 million de femmes qui a attiré l'attention du public sur un possible lien entre les contraceptifs hormonaux et la santé mentale. Du coup le risque annuel de dépression il est de 2,2% et il augmente de 23% chez les femmes prenant la pilule combinée, du coup la plus courante. 40% avec le stérilet, 60% avec un anneau vaginal et dans 100% des cas avec l'utilisation d'un patch contraceptif.
Wow, c'est énorme.
Énorme, oui. Alors du coup, est-ce que la contraception est-elle un risque pour la santé mentale ? Donc on a déjà vu qu'il y avait une étude qui a été menée, il y en a eu d'autres. Et du coup, on remarque que les personnes qui sont touchées par la dépression ont un niveau d'œstrogène plus faible entre le début de leur règle et l'ovulation, là où il devrait augmenter au contraire. Et du coup, les contraceptifs hormonaux, ils peuvent venir impacter le niveau naturel d'hormones et cela peut jouer sur la santé mentale, bien qu'il y ait toujours d'autres facteurs à prendre en compte. Du coup, on va faire un petit retour sur chaque moyen de contraception rapidement. Du coup, les implants contraceptifs progestatifs, ils peuvent augmenter le risque d'être diagnostiqué d'une dépression, selon des études danoises et suédoises. Et du coup, les personne, elle, utilisant l'implant contenant de l'étonogestrel, était plus susceptible de se voir prescrire un antidépresseur, tout particulièrement les adolescents. Du coup, les personnes utilisant des méthodes contraceptives contenant uniquement du lévonorgestrel, du coup comme le stérilet hormonal ou l'implant, présentent aussi des risques accrus de prescription d'antidépresseurs. Concernant l'injection contraceptive, elle est aussi associée à un risque de dépression et bien que les résultats sur les variations d'humeur ils soient plus mitigés selon certaines études sur l'injection contraceptive, ça varie. Les contraceptifs oraux combinés, la pilule, on remarque aussi qu'il y a une augmentation du risque de dépression, notamment chez les personnes qui la prennent pour des raisons qui ne sont pas contraceptives. Ouais. Et du coup, les personnes qui prennent la pilule, notamment celles qui ont une combinaison d'œstrogènes et de progestatifs, elles ont un risque encore plus accru de se voir prescrire des antidépresseurs pour la première fois. Et concernant le patch, l'anneau et du coup la pilule microdosée, qui sont pas forcément les plus fréquents, les études montrent que les personnes qui utilisent des contraceptifs ont un risque plus élevé de recevoir un diagnostic de dépression et de se voir prescrire aussi des antidépresseurs pour la première fois, et c'est toujours plus élevé chez les adolescentes. Donc on remarque qu'il y a un lien entre la santé mentale et la contraception. Faut un peu nuancer quand même le sujet, parce que quand on recoupe toutes les études, les résultats, ils tendent pas forcément. On n'a pas toujours les mêmes résultats. Du coup, il faudrait qu'il y ait des études plus poussées qui soient menées afin d'effectuer un vrai lien entre dépression et contraception, même si le lien est connu par les services de santé publique. Voilà. Et du coup, quelle solution on peut avoir face à ça? Donc déjà, faut
proposer aux hommes, non? Valentin, un mot, voilà. Non? Peut-être quelque chose?
Les moyens de contraception, ça représente forcément un enjeu majeur de santé publique, puisque la pilule, elle est prescrite relativement tôt aux adolescentes, et pas toujours pour des raisons contraceptives. Moi, par exemple, je prends la pilule depuis mes 17 ans, et c'est parce que j'ai des règles très douloureuses, mais c'est la seule raison. Et du coup, on peut penser que, on peut prescrire une pilule pour des règles douloureuses parce que il n'y a pas d'autre moyen. On peut aussi la prescrire pour des problèmes d'acné hormonal. La prise d'un contraceptif, elle n'est pas anodine. Et pour ça, il suffit de regarder autour de nous, de voir les avis des personnes qui l'utilisent, voilà. Et du coup, il y a différentes solutions qui existent. Tout d'abord, le préservatif, qui reste le seul moyen de contraception et qui permet de protéger contre les IST. C'est le seul qui fait les deux. Et il ne contient pas d'hormones, du coup, ça reste un moyen important et non négligeable. Les personnes qui le souhaitent aussi peuvent se faire ligaturer les trompes à partir de 18 ans. C'est irréversible. Donc ça, c'est pour les personnes ayant un utérus. Bien qu'en pratique, en France, en général, les médecins n'acceptent pas de le faire avant la trentaine. Et finalement, on a la vasectomie qui existe, qui est pratiquée, voilà, pour les hommes. Elle est réversible. Et en général, les résultats sont plutôt bons après pour avoir des enfants. Ou sinon, on a la pilule masculine qui est en cours de développement en ce moment. Et du coup, voilà, la contraception, ça représente toujours une charge mentale pour les femmes, qui n'est pas sans risque pour leur santé. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit partagé par les deux personnes du couple. Et que les services de santé publique soient plus attentifs aux effets de la contraception, tant par rapport à la santé mentale, mais aussi à la santé physique, parce que, par exemple, la fatigue, c'est physique.
Mais comment convaincre les hommes de prendre toute cette charge mentale d'un coup, hein?
Est-ce que, Valentin, tu te sens convaincue?
Tu sens convaincue, une petite pilule pour avoir, toi aussi, ton tour, un peu de dépression.
Ouais, après, on peut choisir son moyen de contraception, mais... C'est vraiment en développement, la pilule masculine? Parce que moi, j'avais compris que c'était déjà sur le marché, en fait.
Quand j'ai regardé, je pense qu'elle n'est pas encore développée partout et prescrite partout, parce que apparemment, il y aurait des effets secondaires trop importants pour qu'elle soit vraiment...
hyper convaincant.
Voilà, mise sur le marché pour le moment. En tout cas, elle n'est pas hyper populaire, et c'est toujours un peu en cours de développement.
Et après, en termes de remboursement, parce qu'il me semble, je suis jamais allé prendre une pilule à la pharmacie en France, mais du coup, on a une notion de remboursement qui intervient pour la pilule contraceptive en France.
Dis-nous tout, Alice. Est-ce que tu es remboursée pour...
Je suis... Alors, que des péripéties. Je suis remboursée... la pilule, c'est totalement remboursée par la mutuelle. C'est remboursé. Mais pour qu'elle soit remboursée, il faut qu'elle soit prescrite par un médecin. Et il ne faut pas la perdre entre-temps. Voilà, et en général, ils la prescrivent pour 3 mois. Si on perd la plaquette et qu'on doit revenir d'urgence à la pharmacie, c'est pas sûr qu'ils en redélivrent une. Donc dans ce cas-là, il faut payer. C'est pas hyper cher, mais c'est pris en charge, quand c'est prescrit par un médecin, les moyens de contraception.
Ça prend toujours du temps, de toute façon d'entrer dans une relation, de décider comment on va se protéger, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des nouvelles façons aussi pour les hommes de prendre leur part de responsabilité. Je sais qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le même sujet, mais ils ont vraiment durci les conditions d'avortement, et donc il y a eu une grosse vague de soutien. Je sais pas si elle était grosse, mais en tout cas, il y a eu du soutien par rapport aux hommes qui ont dit, je vais me faire vasectomie. Ça pourra aider ma compagne si jamais on tombera pas enceinte.
Oui, totalement respectable aussi.
Sachant que c'est réversible, donc ça peut être aussi...
C'est réversible, évidemment.
C'est toujours...
C'est réversible, mais les gens sont très frileux parce que c'est réversible, mais... c'est réversible de deux façons. on peut se faire congeler ses spermatozoïdes d'avant et on peut, enfin, la vasectomie peut être défaite, mais il y en a toujours qui diront que si elle est défaite, les résultats sont pas à 100%.
La fertilité, tu parles.
La fertilité, ouais, n'est pas à 100% de retour. Donc c'est un sujet compliqué.
Un sujet compliqué. Le moment d'enchaîner sur le morceau engagé de Club Ouin Ouin.
De Club Ouin Ouin qui a dû prendre une petite pause après la sauce qu'elles se sont prises sur TikTok.
Ok, camion bip bip, c'est parti.
Eh bien, de retour dans notre émission Brisons la glace. On a fait une parenthèse ado avec Valentin un peu plus tôt dans l'émission, si vous l'avez raté. Nous avons parlé de la pilule et des autres moyens de contraception et de son lien avec les cas de dépression. Et on va passer avec un tout autre sujet, avec quelque chose qui se passe le 4 mai dans le monde. Eh oui, le 4 mai, c'est le jour officiel de Star Wars. Un jour créé qui a été assez récent en fait, donc ça date du petit calembour qui a été effectué, donc la phrase originale étant « May the force be with you » et ça a été transformé en « May the fourth », le 4 mai, que ce soit avec toi. Et depuis, donc, c'est la journée internationale de Star Wars. Tous les fans de Star Wars regardent les films, etc. Et ça a été un gros succès commercial aussi, puisque depuis que Disney a repris la franchise, ils s'appliquent bien à faire leur sortie de film le 4 mai, enfin les 4 mai. Donc chaque nouveau film sort le 4 mai. Est-ce que vous savez d'où ça vient, mis à part ça? Qui c'est qui l'a dit en premier
May the four be with you, non.
Aucune idée.
Non. Aucune du coup, idée. On parle d'un acteur?
Non.
Ou c'est
un fan? C'est quelqu'un de connu?
Oui, c'est quelqu'un de très connu. C'est une femme, première femme, qui a marqué l'histoire de son pays. Oui, en Michel. 1979. C'est Margaret Thatcher.
Oula.
Et oui, dans un discours d'inauguration pour donc son élection, okay. Quelqu'un lui a souhaité « May the Fourth be with you » avec un calembour en référence au film Star Wars qui était sorti 2 ans plus tôt.
Ok.
Donc c'est à cause de Margaret.
Ouais.
Et de l'humour anglais.
Et de l'humour anglais. Mais il n'y a pas que ça qui s'est passé le 4 mai. Il y a aussi Ernest Hemingway qui a été récompensé pour son livre.
Moi je vais pas le dire, hein, c'est
Alice, toi qui lis.
Je lis pas du Hemingway.
Ouais, non, c'est pas le livre sur Paris là.
Le vieil homme et la mer.
Le vieil homme et la mer, bien
voilà.
Sûr, ouais. Paris est une fête. C'est pas Hemingway ça.
C'est peut-être, mais c'est pas celui qui a été récompensé.
Hors sujet, Emma.
Hors sujet. On dit bon anniversaire à Gérard Jugnot aussi. Et voilà, je sais plus qu'est-ce que je veux dire à part ça. Est-ce que vous suivez un peu Star Wars? Est-ce que vous avez vu les films? Je vous sens pas motivée là. Toi c'est droit, c'est moi.
J'ai même penché dans le micro Alice pour dire non, pas vraiment. J'ai juste suivi les récents sans forcément comprendre l'enchaînement quoi.
Alice.
Non, je vois les acteurs qu'il y a dedans, c'est-à-dire Nathalie Portman, le gars qui fait Anakin, puis les deux récents, mais mon père essayait de me faire regarder ça depuis et je n'y arrive pas.
Mais non, tu tombes mal, moi non plus, je suis pas du tout une grande fan de Star Wars. Je crois que je me suis endormie devant à peu près tous les films.
C'est vrai?
Et depuis genre 2 bons sommes au cinéma, j'ai arrêté d'y aller.
C'est vrai que c'était un film qui a révolutionné son temps. Tu les regardes encore aujourd'hui, les effets spéciaux.
Ça, c'est fou, ouais.
Ils sont allés assez loin avec ça. Je suis pas spécialement fan non plus de Star Wars. J'ai vraiment plus accroché aux récents que, comme tu disais, avec Nathalie Portman et comment il s'appelle, Anakin Skywalker. L'acteur qui joue Anakin, je ne sais plus. Et tous les noms m'échappent ce soir. Bref, donc c'est tous les récents qui m'ont plu, mais c'est vrai que les vieux, ça, ça, Ça date un peu maintenant.
Ça date, bah, surtout que les effets spéciaux... Bon ben, on voit bien que c'est des effets spéciaux, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, quoi.
Après, avec la sortie de Dune, bon, j'ai pas vu les Star Wars, donc je peux pas en dire si c'est si ressemblant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une vibe entre Dune,
Dune qui est sortie
du coup avec Zendaya et Timothée Chalamet, et puis il y a le 2 qui sort là en fin d'année.
D'ailleurs, Dune et Star Wars à l'époque ont été faits à la même époque, celui avec Bowie.
Oui.
Ça doit être l'époque des premiers Star Wars aussi.
Oui, oui, c'est vrai que le livre est un peu ancien. Enfin, ancien.
On doit être en 1984 comme le jeu, comme le bouquin d'Orwell. Non, mais sans déconner, on doit être à peu près.
Mais du coup, c'est vrai que dans l'univers, je pense que c'est une bonne façon de relancer un nouveau film qui soit un peu dans le même univers sans que ce soit la même chose, parce qu'on est un peu sur une mort des dystopies au cinéma.
Y a que des séries dystopiques, tu plaisantes?
Non, quand je parle des dystopies, je parle des grands, des Hunger Games, des Divergentes, de la grande époque des
récentes
dystopies pour adolescents au cinéma. Et du coup, avec Dune, ça a un peu relancé la machine. Du coup, c'était l'an dernier. Et là, puis on a Hunger Games, du coup les préquels qui sortent aussi au cinéma en France le 17 novembre. Du coup, et je crois qu'ils vont encore, ils continuent encore Star Wars.
Là, ce qui a été pas mal, ce qui a été fait aussi, c'est de mettre des héroïnes féminines, qui est donc plus des seconds rôles,
un peu de progrès, bon sang, en 2023.
C'est ça, parce que bon, après, t'avais la princesse Layla qui est jouée par Nathalie Portman, qui a un grand, grand rôle, mais elle combat pas. Et donc là, dans les derniers Star Wars avec Daisy Ridley, ben du coup là, on les voit vraiment, elle se bat comme un homme entre guillemets, et ça fait aussi plaisir de voir des grosses franchises comme ça qui changent un peu leur fusil d'épaule par rapport à la question féminine aussi.
Complètement. Nous soutenons.
Voilà. Si jamais vous n'avez pas vu Star Wars, vous pouvez vous pencher dessus ce mois de mai, ça s'y prête assez bien.
Ouais, moi on va continuer dans le futur du coup. On est dans le futur si de toute façon avec des plantes connectées. Donc j'aimerais vous parler de Maria Castellanos, qui est une Espagnole qui vit à Oslo depuis une quinzaine d'années. Elle est à la fois artiste et chercheuse au croisement de l'art, de la science, de la technologie et de la société. Elle a obtenu un doctorat avec mention extraordinaire, ce qui n'est pas rien.
Je sais pas que c'était possible.
En Espagne, moi non plus, je l'ai appris. Et aujourd'hui, elle occupe le poste de chercheuse à l'Oslo Metropolitan University, où elle développe un projet qui s'appelle le FELT Project, le Future of Living Technologies.
Ok, prometteur.
Prometteur. Donc elle a vraiment fait des nouvelles formes d'intelligence son cheval de bataille à la fois artistique et scientifique. Donc en gros, elle part du principe que les plantes communiquent, que nous humains, on peut pas trop le capter. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas comment le capter. Mais en tout cas, elle est persuadée que les plantes communiquent en elles. Ils ont pu étudier grâce à des senseurs, à des sensors, tout un tas d'études. Et elle a décidé d'utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre et mieux communiquer avec la plante. Donc du coup, Et donc en 2020, elle avait commencé un projet où elle a connecté 25 plantes dans le monde. Donc 25 plantes dans le monde qui sont connectées grâce à un petit data qui ressemble à une sorte de petit volcan avec des yeux presque, qu'on met au pied de la plante. Et à partir de ce petit appareil, en fait, des capteurs vont aller s'accrocher aux branches délicatement et renvoyer des informations. Donc là, ce data, il va être collecté par ce petit outil. On va récolter les informations de la plante, c'est-à-dire que selon elle va réagir, envoyer des sortes d'ondes en fait magnétiques selon la lumière, l'heure, la température, la pression atmosphérique, enfin bref, tout un tas d'éléments. Et ces datas sont collectées toutes les 3 minutes et ensuite analysées. Et donc ils se rendent compte, par exemple, que les plantes, selon si on fait un son, selon si on parle à côté, selon si elle est seule, la nuit, le jour, et ben c'est évidemment pas les mêmes informations qui sont collectées. Et surtout, on s'est rendu compte qu'elles apprennent et qu'elles s'adaptent aux choses. Donc, par exemple, Maria, elle avait fait partie d'un projet où c'est comme si on mettait un switch on-off sur ses senseurs. Et alors, au début, on apprend aux plantes, on leur met 8 heures de jour, 8 heures de nuit, par exemple, ce rythme-là, on leur montre, on leur apprend un mois, deux mois. Et puis, à un moment, on arrête et on les laisse décider de ces heures de jour et nuit. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que les plantes, alors c'était le cas au complet pendant des semaines, 2 heures de jour, 2 heures de nuit, enfin, elles étaient complètement perdues jusqu'à ce que du jour au lendemain, pouf, elles se sont alignées.
Elles sont harmonisées.
Elles se sont harmonisées et elles ont, c'était 3 plantes connectées et elles ont donc créé leur rythme nuit-jour qui était bon pour eux. Et donc Maria, qui n'en a pas fini de ses installations, hein, parce que Maria, elle a exposé à Beaubourg, non pas à Beaubourg, pardon, au Centre Pompidou de Metz. Enfin, dans le monde entier, ces plantes parfois sont exposées, tournent, etc. Et donc moi, j'ai une de ces plantes connectées au-dessus de ma tête. Un de mes voisins, donc, a une plante de la nouvelle étude qui concerne 5 plantes seulement. Et donc là, cette étude a commencé depuis un mois et demi à peu près, donc on n'est pas sûr des résultats encore, enfin on n'a pas de résultats surtout. Mais là, l'idée, c'est de savoir comment, en mettant 5 plantes, donc il y en a 2 en Norvège, 1 en Suède, 1 au Mexique et 1 en Angleterre, toutes évidemment reliées ensemble, si elles peuvent communiquer entre elles. Un peu pour dire, hey, salut, est-ce qu'on peut devenir potes? Et alors là.
On se fait un Skype.
On se fait un Skype. Et donc c'est mon voisin Pavel qui est l'heureux propriétaire, donc d'une Monstera. Elle étudie que 3 plantes pour l'instant, qui sont pour celles qui réagissent le plus à ses études. Donc il y a des Monstera, il y a des cactus. Et il y a, attendez, j'ai perdu le nom de la 3e plante. Une lily, voilà, une lily. La 3e plante, c'est la lily. Et donc, Pavel, mon voisin, il a une monstera, il lui a pas donné de petit nom. Mais bon, elle est là, elle clignote, elle réagit. Enfin, le sensor, la petite machine, réagit quand on est dans la pièce, quand on bouge. Et donc, ils se sont rendus compte, les premières analyses montrent que donc la monstera de Pavel serait copine avec le cactus mexicain, mais pas du tout avec la monstera suédoise, par exemple.
Ah bon?
Donc là, elle s'envoie des datas, en fait, peut-être sans doute similaires. Donc voilà, mais elle
communique. C'est marrant, ça.
Donc voilà. On pourra inviter Maria dans une future émission si ça vous intéresse.
Avec grand plaisir.
Mais voilà, on est vraiment aux frontières de l'art, la science, la technologie.
Et du coup, peut-être que tu vas te répéter, mais qu'est-ce que captent les capteurs du coup ?
Eh ben, ils envoient et récupèrent l'humidité dans la pièce.
Des infos, quoi.
Des informations de la plante elle-même. C'est comme si elle était, ton petit capteur, il était là sur la branche et selon la lumière, c'est comme s'il y avait des données magnétiques un peu, des ondes en fait qui se forment selon ce qui se passe autour de la plante. Donc c'est là qu'on se rend compte que quand on la touche par exemple, il y a des ondes magnétiques qui sont créées. Quand on parle à côté, il y a des ondes magnétiques qui sont créées. Si on met une plante trop proche d'elle, il va y avoir des nouvelles ondes magnétiques qui se créent. Donc elle communique, elle s'adapte, voilà. Mais peuvent-elles communiquer dans différents pays? Ça c'est...
C'est pour ça que c'est toujours très important de parler à ces plantes.
Exactement.
C'est super important. C'est super important. Passer du temps avec elles, nettoyer la poussière.
Voilà, de les dépoussiérer, de leur donner une petite douche même pour les monstera.
Quand il fait beau, les mettre sur le balcon si on est en intérieur. C'est important de leur parler.
Je crois qu'on est bien parti pour faire une émission spéciale plantes. Très prochainement.
Ouais, en tout cas, l'intelligence artificielle et plantes, c'est assez passionnant parce qu'en plus, l'équipe de Martha et ses équipes à l'université d'Oslo, ils ont aussi créé donc un algorithme capable.
C'est extraordinaire.
Tout ça, donc oui, c'est extraordinaire. Comme son PhD.
Bah oui,
c'est Salvio qui dit ça. Moi, j'ai pas rencontré Maria, mais j'aimerais beaucoup. Et puis voilà, je vous en
elle
parlerai
plus. Elle parle pas français.
Non, elle parle pas français, mais peut-être.
C'est espagnol, c'est transparent.
Ouais. Mais évidemment, on pourrait communiquer en anglais avec elle, bien sûr.
Ça serait peut-être intéressant de l'avoir dans notre émission de Brisons la glace.
Maria, si tu nous entends.
Maria, si tu nous écoutes, viens.
On essaie de t'envoyer des ondes.
Ouais.
Des bonnes ondes de Dekman Bjørvika.
Ouais, c'est ça. Et j'avais du coup un morceau pour terminer ma chronique, pour rester dans les plantes et dans la nature. C'est est-ce que vous savez qu'on peut faire des instruments avec plein de légumes.
Ouais, moi je savais. Avec des plantes.
Pas du tout. Avec le bambou, oui.
Mes herbes.
Ah non. Là, on parle de taillage d'aubergines à 1h du concert, parce que sinon, elles vont faire des sons différemment. Donc, on va écouter Greenhouse du Vienna Vegetable Orchestra.
Et on va se quitter là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir passé cette émission ensemble dans Brisons la glace. Et à la prochaine.
Eh ben ouais. À très bientôt. Merci.
Ciao.